Bonjour à toutes et à tous. Oui, cette semaine, on occupe l'espace. Mais quel espace? Les étendues inertes sur lesquelles on se déplace, l'espace au-delà des étoiles, les territoires que l'on se partage, souvent mal, où tout c'est chez soi, maison, coin, chambre ou autres tiroirs et armoires, dont nous parle Gaston Bachelard.
Dans les armoires, j'en ai plusieurs à Dijon, je me souviens par exemple des armoires de la campagne, n'est-ce pas, où on conservait des draps avec des chapelets d'iris, n'est-ce pas? Vous savez, la racine d'iris, eh bien, elle parfumait des armoires pour la ville. Et puis, chaque armoire a son individualité. Et donc, par conséquent, elle tient une poétique de l'espace. Vous voyez d'où le titre vient? C'est ainsi que dans ce livre-là, j'ai parlé de la poésie des coins. Un enfant qui se met au coin de l'appartement, hein, on le laisse tranquille, n'est-ce pas? Si on voulait étudier les espaces tels qu'on les vit, on s'apercevrait que c'est pas avec de la géométrie que vous faites ça. Hein. Voyez-vous, je cherche le particulier, je cherche l'image particulière qui tout de même me donne l'impression que j'ai pu vivre ça, ou j'aurais pu le vivre, il ne fallait rien pour que je rêve dans cette direction.
Tout au fond des armoires et des tiroirs, dans les maisons de nos grands-pères, de nos grands-mères, à quelle joie! Dans les maisons de nos grands-pères, de nos grands-mères, tu ne devines pas ce qu'il y a. Dans les tiroirs, il y a des photos des tout petits enfants qui s'en vont à l'école. Dans les armoires, il y a des chapeaux que portaient nos parents pendant les années folles. Dans les tiroirs, il y a des opales, des képis de soldats et des fleurs en papier. Dans les armoires, il y a des pétales, un truc en chachilla, une robe de mariée. Tout au fond des armoires.
Bonjour Vincent Bontemps.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Vous êtes philosophe des sciences et des techniques, vous travaillez au LARSIM, laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. On vous doit deux ouvrages sur Bachelard, alors un qui est déjà disponible aux belles lettres et un prochain à paraître en avril, Bachelard et l'avenir de la culture, du surrationalisme à la raison créative, ça va paraître aux presses des mines. Alors toute cette semaine, je le disais, nous allons explorer l'espace dans les chemins de la philosophie, l'espace public, esthétique et politique de Kant, l'espace infini de l'univers, les espèces d'espace de Georges Perec. Mais nous commençons avec vous et avec Gaston Bachelard, dont on vient d'entendre la voix. D'où lui vient cette idée? C'est en 1957, avec la poétique de l'espace, d'élaborer une philosophie des tiroirs, des coins, des coffres et des armoires.
C'est lui qui en parle le mieux, il vous l'a dit, c'est lié à des choses qui ont trait à l'intimité, à des souvenirs d'enfance, à des rêveries. Et les tiroirs sont, comme il dit, un peu la maison des choses. Et ça nous amène tout de suite sur une des idées force de sa réflexion sur l'espace, qu'il appellera dans un certain nombre de ses textes la loi de l'isomorphie, c'est-à-dire il y a des espaces qui topologiquement sont les mêmes. Et par exemple, donc, le tiroir et la maison sont deux éléments de protection, deux éléments dans lesquels il y a des coins, c'est-à-dire qu'on peut s'y rencogner, ce qui est une activité très très humaine. Et lui-même dira finalement se blottir. Le fait de se blottir contre un ventre, contre une maison, dans une malle pour une chose, eh bien, c'est chercher un archétype de protection et c'est une façon essentielle pour l'humanité d'habiter, se blottir. Et donc les coins aussi qui sont, comme il l'a dit, la maison, il le dira, est une sorte de coin d'univers pour l'être humain. Et n'importe quel coin pour un enfant qui joue, qui se met dans un coin, devient aussi l'ouverture sur un espace imaginaire.
Mais on connaît Bachelard, alors évidemment, pour ses ouvrages sur les quatre éléments, qui sont déjà des ouvrages assez poétiques, sur l'air, l'eau, la terre et le feu. Mais Bachelard, c'est aussi un philosophe des sciences et parler d'espace en termes d'habitat, en termes poétiques, en termes d'images particulières, ça ne cadre pas du tout avec cette approche épistémologique de l'espace qu'on connaît en philosophie plutôt comme étendu, comme matière.
Alors, il y a une véritable dualité. Lui-même, dans la citation, dans le passage que nous avons entendu, dit « ce n'est pas avec de la géométrie qu'on étudie ces espaces-là ». Et pourtant, je dirais que c'est parce que justement il a prêté attention à des inventions géométriques que sa notion d'espace imaginaire est aussi riche. Bon, alors, on va pas avoir le temps de tout rappeler, mais il faut dire que l'invention des géométries non euclidiennes, par exemple, a beaucoup compté dans sa philosophie. Et puis, qu'il a mené des travaux sur des géométries qui sont des anticipations des fractales. J'en parle un peu, justement, dans mon prochain livre.
Qu'est-ce que sont ces géométries et en quoi elles ont un petit peu informé ou déformé, en tout cas, son approche de l'espace?
Il avait prêté attention aux travaux d'un mathématicien qui s'appelle Adolphe Bull. Et dans ces géométries, ce sont des lignes qui sont continues, mais qui sont constamment en dents de scie. Et comme il dit, la tangente s'affole et l'espace a un grain. Ce qui veut dire que suivant la précision à laquelle on regarde ces lignes, elles sont toujours plus brisées. Et donc c'est vraiment quelque chose qui anticipe sur les fractales de Benoît Mandelbrot. Et en même temps, dans un petit texte qui résonne, qui est un texte scientifique, mais qui résonne avec le thème d'aujourd'hui, qui s'appelle « Le monde comme caprice et comme miniature », qui est dans le recueil « Études » chez Vrin, eh bien, il dit que ça nous ouvre à une quatrième dimension, la dimension d'approfondissement. C'est-à-dire, quand on fait un zoom, pas simplement longueur, largeur, hauteur, mais regarder les choses de plus en plus petites. Eh bien, quelquefois, on a la surprise de voir un espace immense s'ouvrir dans quelque chose de petit. Eh bien ça, cette intuition géométrique, c'est précisément quelque chose qu'on peut retrouver d'une certaine manière, par analogie, dans l'espace imaginaire. On rentre dans un tiroir et puis finalement on y découvre un univers entier, ou au contraire, on contemple l'univers comme si c'était une miniature. Donc ces transformations d'échelle, c'est quelque chose qu'il aura appris. Il aura appris à briser, autrement dit, avec les évidences de l'espace, c'est-à-dire l'espace perceptif, ou bien tout simplement l'espace que vous évoquiez, c'est-à-dire l'espace de la géométrie simple, de l'étendue, c'est-à-dire l'espace vide, creux, inerte. Au contraire, lui, ce sont des espaces avec des dynamismes, ce sont des espaces avec des axes privilégiés.
Avec une épaisseur aussi?
Avec des textures, parfaitement. Et donc, il y a quelque chose qui est analogue dans sa façon dont il aura complexifié l'espace d'un point de vue épistémologique, y compris dans un livre de 1936 qui s'appelle « L'expérience de l'espace et la physique contemporaine », qui s'intéresse à développer une intuition de l'espace, des espaces abstraits mathématiques, pour essayer de comprendre, créer des rectifications, des intuitions pour comprendre la mécanique quantique. Et puis, cette très grande richesse de l'espace qui, comme vous l'avez dit, se révèle d'abord dans les livres sur les éléments, qui tous sont des spatialisations de l'imaginaire, en quelque sorte, et puis va s'incarner merveilleusement dans l'un de ses plus beaux livres, et peut-être l'un des plus connus, qui est la poétique de l'espace.
Alors, comment Bachelard, justement ce livre, La poétique de l'espace, comment vous le définiriez, Vincent Bontemps? Est-ce que c'est un livre de philosophie? Est-ce que c'est un livre de phénoménologie? Est-ce que c'est un livre de psychanalyse, de psychologie? Car, je le précise, en fait, Bachelard, dans ce texte, dit qu'il veut se déphilosopher, dit aussi qu'il veut se dépsychanalystiquer, et pourtant il fait appel à des références psychanalytique ou aussi philosophique. Alors, comment prendre ce livre, ce qui nous permettra aussi de comprendre comment lui-même vit cet espace?
C'est un livre de Gaston Bachelard. C'est quelque chose d'immensément libre et riche. Ça touche à énormément de domaines. On peut voir qui s'intéresse finalement à ce livre. Qui va s'y intéresser? Eh bien, ce sont les architectes. Non pas pour apprendre à construire, mais pour apprendre à sentir et à développer une intuition de la façon dont les gens justement vont habiter des espaces. Ce sont des
critiques
littéraires.
Et pourtant, ça n'est pas un livre de mesure, ça n'est pas un livre...
Absolument pas. Justement, c'est comme tous les livres de la période nocturne, enfin du versant nocturne de son œuvre. Ce sont des livres où il est quasiment impossible de trouver un référent théorique stable. Parce que même quand il appelle la psychanalyse du feu, ou quand dans L'eau et les rêves, il en appelle encore la psychanalyse, en réalité, il est déjà dans un décalage avec la psychanalyse. Ce qui l'intéresse, c'est pas tellement de ramener, c'est même pas du tout de ramener les images de l'inconscient à un certain nombre de pulsions, c'est de déterminer au contraire une logique propre des images, une complexité, une cohérence d'un certain nombre de faisceaux d'images. Et donc, il était déjà dans cette recherche très, très originale d'une technique qui, mine de rien, fait quand même appel à sa culture savante, je veux dire, de mathématicien, d'épistémologue de la physique, parce qu'il y a un certain nombre d'analogies, on les trouvera. Il est nécessaire par moment d'avoir des schèmes scientifiques un peu complexes pour rendre raison de la beauté du dynamisme de l'imaginaire, sans jamais ramener l'imaginaire, en revanche, à quelque chose de prosaïque, qui serait soit les évidences communes, soit même, je veux dire, un décalque, justement, de la géométrie, ou de vouloir mesurer les choses avec une règle. C'est quelque chose, donc, qui est philosophique au sens où ça parlera à beaucoup de gens d'un décalage avec leur propre culture.
Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et le vif du texte en écoutant tout de suite, c'est le début de la poétique de l'espace, juste après l'introduction, c'est le premier chapitre sur la maison. Écoutez, c'est lu par Vincent Schmitt.
La maison est notre coin du monde. Elle est notre premier univers. Elle est vraiment un cosmos. Un cosmos dans toute l'acception du terme. Vue intimement, la plus humble demeure n'est-elle pas belle? Les écrivains de l'humble logis évoquent souvent cet élément de la poétique de l'espace, mais cette évocation est bien trop succincte. Ayant peu à décrire dans l'humble logis, il n'y séjourne guère. Il caractérise l'humble logis en son actualité, sans en vivre vraiment la primitivité, une primitivité qui appartient à tous, riches ou pauvres, s'ils acceptent de rêver. Par les songes, les diverses demeures de notre vie se compénètrent et gardent les trésors des jours anciens. Quand dans la nouvelle maison reviennent les souvenirs des anciennes demeures, nous allons au pays de l'enfance immobile, immobile comme l'immémorial. Nous vivons des fixations de bonheur. Nous nous réconfortons en revivant des souvenirs de protection. Quelque chose de fermé doit garder les souvenirs en leur laissant leur valeur d'image. Les souvenirs du monde extérieur n'auront jamais la même tonalité que les souvenirs de la maison. En évoquant les souvenirs de la maison, nous additionnons des valeurs de songe. Nous ne sommes jamais de vrais historiens, nous sommes toujours un peu poètes, et notre émotion ne traduit peut-être que de la poésie perdue.
J'ai fait, si vous voulez, mon enquête pour montrer que les espaces, enfin la poétique de l'espace, est une poétique de l'habitation heureuse. J'ai commencé par montrer que la maison, la chambre, la maison c'est trop grand, n'est-ce pas ? La chambre était, si vous voulez, quasiment un corps, presque un corps maternel qui nous reçoit la nuit. Et alors, par conséquent, j'ai regardé, si vous voulez, enfin la poésie du repos. En sous-titre, j'aurais dû mettre, n'est-ce pas, l'espace heureux, c'est l'espace où l'on se repose. Alors, c'est par la maison que j'ai commencé. Puis la maison, je l'ai... j'ai dit toutes ses puissances. Il y a des pages sur la cave. Et sur le grenier, j'ai montré que l'homme qui va au grenier est un homme plus solitaire. Un enfant va bouder dans le grenier. Hein? Voilà la maison qui est caractérisée d'une façon extrêmement sensible.
Vincent Bontemps, on vient d'entendre encore une fois la voix de Gaston Bachelard. C'était dans un documentaire de 1961. Il y parle de la maison comme de cet espace heureux. Et dans l'ouverture de la poétique de l'espace, il parle de topophilie. Qu'est-ce que c'est que ce terme de topophilie, cette nouvelle discipline de topophilie ?
Oh non, c'est pas une discipline. Il faut garder justement tout le plaisir et le bonheur d'explorer des espaces. C'est le fait d'aimer les espaces. C'est un certain nombre d'espaces qui sont donc topologiquement définis. On les a un peu évoqués. La maison, c'est quelque chose qui est clos mais sans fermeture. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer et sortir. Ça communique quand même avec l'extérieur. C'est un archétype dans lequel on va se concentrer. L'ensemble des déterminations de ce que Bachelard aura vu dans les éléments auparavant et qu'il aura peu à peu dégagé. Par exemple, il évoque là la cave. Eh bien, qu'est-ce qu'une cave sinon une forme de grotte ? et donc quelque chose qui avait été déjà vu dans La Terre ou les rêveries du repos, hein, cet endroit où il peut y avoir une maturation, un inconscient, l'anima qui travaille doucement et justement dans le repos, sans faire de flamme. Et puis, qu'est-ce que le grenier, sinon une sorte de nid? Ce symbole aérien du passé sec, comme il dit aussi, contrairement à la cave qui est humide. Donc vous voyez tout de suite se mettre en place une polarité, et c'est ça qui caractérise les espaces, qu'on aime cette topophilie, c'est que ces espaces ne sont jamais l'espace de l'étendue inerte, mais toujours isotropique, mais toujours au contraire avec des tensions, et là avec un axe vertical par exemple, une chose dont qu'on retrouve, enfin qui a déjà été vue dans L'air et les songes. Et donc il y a dans la maison, toute cette concrescence de choses qui sont très proprement humaines. Et alors, l'autre chose, c'est l'intimité, l'enfance, le rêve. L'importance de la maison, c'est que c'est la maison rêvée. Et c'est pour ça qu'il superpose les différentes maisons dans lesquelles on a pu habiter, à commencer par sa maison natale, mais ça ne s'y réduit pas. Et c'est là l'erreur de ces romanciers que Bachelard vient d'épingler, qui font finalement une description extérieure et objective, hein, de l'espace de l'humble logis. Donc, comme c'est un humble logis, il y a peu de choses à décrire. Et voilà. Alors que, au contraire, l'humble logis, c'est le royaume que l'on a habité en premier, dans lequel se sont déployés nos gestes. Alors, une vraie maison a toujours un axe vertical. Il faut avoir pu descendre à la cave et monter au grenier. Mais donc, il y a tout un ensemble de gestes qu'on a appris, qui forment comme un groupe mathématique, qui sont en nous et qui viennent nous animer quand on revient dans ses rêves à la maison de nos rêves, qui n'est jamais juste un souvenir, qui est bien plus que ça, qui est une exigence humaine de pouvoir, par le sommeil, regagner justement le lieu du repos.
Mais est-ce que ces espaces, on peut les créer ? Est-ce qu'on peut les fabriquer ? Est-ce qu'ils peuvent exister ? Est-ce que ça ne sont pas finalement que des images ? En fait, c'est tout le rapport de ces images d'espaces heureux avec la réalité.
Mais l'image, c'est beaucoup. Et c'est justement, l'image, c'est la possibilité d'échapper à quelque chose de prosaïque et de certes concret, mais qui est une réalité de premier ordre, une réalité de l'évidence. Tout ce que nous offre Bachelard, c'est justement la possibilité de rompre avec ces évidences et d'aller habiter à la fois les hauteurs de la pensée spéculative et de la science, et de pouvoir reconstruire et de pouvoir corriger nos intuitions et de pouvoir découvrir de nouveaux horizons d'un côté, et puis de l'autre, c'est de nous laisser aller à la rêverie et donc de ne pas être exactement là où on est, de se laisser emporter par le courant et de l'imaginaire, et donc de pouvoir se livrer à des explorations. Et oui, je pense que du coup les images sont un espace de jeu aussi, qui est abordé par exemple à travers le thème des miniatures, hein, toutes les fois où dans l'imaginaire on arrive à manipuler des choses immenses comme si c'était des jouets justement. Et
un jeu d'échelle effectivement que nous propose Bachelard à travers les pages. Il nous propose des réflexions sur, on a parlé des armoires, des coins, des coffres, mais il y a aussi le nid, la coquille, la miniature, l'immensité. On aura le temps de parcourir un certain nombre de ces dimensions. Il parle aussi, Bachelard, c'est lié à la topophilie, de topo-analyse. Alors finalement, si ce sont des espaces rêvés, s'il s'agit d'images, comment les saisir, ces images ? Comment les analyser sans finalement enlever de tout cet onirisme qu'il cherche à préserver ? Mais il faut pouvoir quand même en parler, il faut pouvoir quand même les décrire, en saisir l'être.
Non, c'est assez subtil parce que il faut, la méthode de Bachelard est souvent en trois temps. Donc, dans un premier temps, il faut respecter l'originalité de ces espaces rêvés. Donc, du point de vue épistémologique, ça serait le moment de l'obstacle et de la rupture avec l'obstacle. Et donc, il faut se libérer de tout ce qui pourrait vouloir ramener à des intuitions, justement, de la perception, du sens commun ou de la géométrie élémentaire, et laisser au contraire ces espaces suivre leur propre dynamisme. Et puis, dans un second temps, il faut en saisir, on va dire, des divergences, qui à un moment donné, il appelait des complexes, c'est-à-dire certains de ces espaces, justement, se rejoignent. Alors, la loi de l'isomorphie peut nous y guider. C'est quand il dit, par exemple, que la cornue, le ventre ou la grotte finalement. Ce sont trois images topologiquement équivalentes, mais avec des gradations de valeur, hein, quand même. Il y a, dans un rêve, si vous vous trouvez dans un ventre, dans une grotte ou dans une cornue, à chaque fois, c'est une espèce de gestation et de transformation qui est en cours, mais elle peut avoir une portée cosmique plus grande si vous êtes dans une grotte au centre de la Terre. Donc, c'est des choses comme ça. Et puis, troisième temps, en fait, le terme topo-analyse vend un peu la mèche. Par moment, on va retrouver des analogies avec justement les concepts les plus complexes de l'épistémologie. J'ai en mémoire, par exemple, dans L'air et les songes, à un moment donné, où il parle d'une rêverie généralisée dans le même style, dit-il, que la relativité générale. Relativité généralisée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est dans L'air et les songes, il y a un moment donné où la loi d'isomorphie ne dit pas simplement qu'il y a des images qui sont équivalentes, elle dit aussi que le rêveur ou le lecteur, le poète, accompagne les transformations. C'est-à-dire, si vous lisez des choses sur la légèreté, vous vous sentez léger. Et si vous vous sentez léger, vous allez vous envoler. Vous vous envolez parce que vous êtes léger, pas parce que vous avez des ailes, mais parce que vous vous sentez léger.
Si on lit ce texte, si on écoute ce texte sur la maison, on se sent protégé. On
Exactement.
Se souvient d'images de maison, de la sienne peut-être, ou de celle qu'on a vue en photo.
Et la maison, c'est votre corps, c'est votre intégrité aussi. C'est comme la coquille. Donc vous faites partie de la maison. Vous ne faites pas simplement habiter la maison. Vous avez le sentiment d'habitation en vous. Donc il y a cette solidarité du rêveur et du rêve ou du lecteur et du poème qui est à la base de la conception de l'imaginaire chez Bachelard. Voilà. Et donc, on peut, à ce moment-là, aller rechercher, comme je disais, donc, la réalité générale, c'est cet espace, et je crois qu'Aurélien Barraud vous en parlera, où les masses, on dit souvent les masses déforment l'espace, mais en réalité, l'espace, il n'y a pas de cause à effet, les deux vont en même temps. C'est-à-dire que l'espace n'est pas indépendant des masses qui l'occupent. Il a une courbure de ce fait. Eh bien, dans le rêve, c'est pareil. Si vous êtes lourd, vous allez tomber, c'est comme si le gouffre vous appelait et que vous rendez lourd, et puis c'est aussi parce que vous vous sentez coupable. Mais aussi, si vous vous envolez, c'est que vous êtes léger. Et c'est qu'aussi, en fait, vous vous sentez mieux. Donc, dans la maison, ça va être la même chose. Votre circulation dans la maison va vous mettre dans des lieux de votre inconscient différents. Et si vous allez à la cave, c'est l'inconscient humide.
On est à l'image d'une maison.
Oui, mais oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il dit « on ne peut pas bien rêver quand on est dans un appartement ». Et c'est une phrase qu'il dit à la fin de sa vie quand il vit dans un appartement. Et il dit pour être, il y a un journaliste qui l'interviewe. Il fait mais est-ce que vous habitez une maison? Il fait vous pouvez pas vraiment comprendre ce que je dis. Pour lui, bien rêver, c'est justement habiter par le rêve, mais donc souvent avoir pu habiter aussi nativement une maison pour avoir cet axe vertical et pour avoir ces différents lieux où l'inconscient peut circuler et se reconnaître dans différentes topo-analyses.
J'ai fait jadis un livre où il y avait le mot espace dans le titre, la physique de l'espace, ou l'expérience de l'espace dans la physique contemporaine. Le présent livre est tout à fait différent. Il veut montrer que l'espace a des qualités de refuge, des qualités de protection, où l'homme va non pas tant penser que rêver. Par conséquent, c'est un ouvrage qui est dans la ligne de tous ceux que j'ai fait sur la rêverie poétique. Il faudrait donc qu'il y ait ici encore un sous-titre qui indique qu'il s'agit de la physique, de l'espace physique d'un rêveur. Et c'est pour cela qu'il faut considérer ce livre-là comme un livre de philosophie un peu fantaisiste, où on ne démontre rien, et où on essaie de suggérer quelque bonheur de bien habiter sa maison. Mais il n'y a dans ce livre nulle trace d'une pensée scientifique. C'est l'espace, ce n'est même pas l'espace, si vous voulez, des grands philosophes, voilà, Malebranche qui nous parle d'espace intelligible, des infinis. Je ne vis pas dans l'infini, car dans l'infini, on n'est pas chez soi.
Vous écoutez France Culture, c'est la voix de Gaston Bachelard en 1961 pour ouvrir cette semaine sur l'espace. Et là, on parle d'espace intime avec vous, Vincent Bontemps, Gaston Bachelard, qui nous parle, qui nous dit cette phrase géniale, « On n'est pas chez soi dans l'infini ». Alors, où est-on chez soi pour Gaston Bachelard? C'est ce sentiment d'intimité qu'il cherche à pointer dans La poétique de l'espace, et le livre dont il parle dans cette archive, qui est aussi cet espace, un espace intime.
Oui. La maison est assez universelle comme espace de l'intimité, et il y en a d'autres. Dans chacun des éléments, il avait souligné que certains poètes ont une affinité avec certains éléments. Et donc, il disait, pour bien rêver, il faut rejoindre son élément. Donc, il y a des gens qui sont plutôt du côté de l'eau et qui vont se retrouver chez soi dans le cours d'un fleuve, ou auprès de ce qui est considéré comme la plus belle expression de la langue française, c'est-à-dire auprès d'une eau dormante. Voilà. Et il y a des gens qui sont des esprits puissamment terrestres, comme Victor Hugo, et qui donc ont besoin de force tellurique. Et donc voilà, on rejoint, suivant son tempérament, on a une affinité avec certains nombres d'éléments, et avec ces éléments viennent justement des lieux, des topos. Et puis, il y a la maison qui est vraiment, voilà, pour le coup, assez universelle et qui peut se penser comme à la fois étant une condensation d'un certain nombre des topos, des éléments, et qui peut aussi être, déclinée. Il pourrait y avoir une maison aérienne. Il peut, voilà.
Il y a aussi la hutte dont il parle dans la poétique de l'espace. On a parlé de verticalité, on a parlé de mouvement dans la maison qui serait à l'image de mouvements profonds, intimes. Ouais. Est-ce que la maison, finalement, on l'habite, ou est-ce que c'est la maison qui nous habite? Et par exemple, des espaces comme un nid, une coquille, une hutte, finalement, elles nous constituent, nous, plus qu'on ne rêve de les habiter, en fait. On n'a pas forcément envie d'être dans une hutte, on a envie d'avoir l'image d'une hutte qui continue à perdurer en nous pour, finalement, vivre, tout simplement.
Il y a le poète Thoreau qui avait décidé, vraiment, lui, de vivre dans une hutte, dans une seule pièce. Et les Celtes vivaient dans aussi une seule pièce. Et il semble que chez beaucoup de peuples, le fait de vivre dans une seule pièce, de rejoindre cet archétype, ait eu une valeur anthropologique fondamentale, d'accord? Et la hutte, en plus, c'est la maison des bois aussi, hein. Donc il y a ce fait de rejoindre quelque chose d'immémorial qui est la forêt. Voilà. Et donc la maison, une fois de plus, c'est pas une fermeture, ça peut être aussi une ouverture sur une certaine façon de concevoir le monde. Donc il y a des maisons lacustres, il y a des maisons de la forêt avec des immensités extérieures qui leur sont propres. Chaque maison, en fait, nous fait communiquer avec une certaine image de l'univers. La maison rêvée de Bachelard, il en donne, je crois que c'est dans l'un des livres sur la Terre, il en donne une description, et il dit, c'est une petite maison au haut d'une colline avec quelques arpents de vigne qui descendent sur les coteaux. Et elle est due, cette description, à Franz Kafka. Et alors ça, c'est vraiment très beau, parce que c'est aller chercher chez un écrivain qui est vraiment un écrivain urbain, Franz Kafka, le Pragois, justement, l'archétype de la maison de rêve. C'est non pas la maison où Kafka a habité, comme vous dites, mais c'est la maison où il a rêvé d'habiter. Eh bien, Bachelard, il reconnaît aussi sa maison de rêve, et dans le rêve d'un urbain.
Alors, il y a ces très belles pages dans la poétique de l'espace où Bachelard explique que quand il dort à Paris, qu'il n'arrive pas à dormir, il dit, quand l'insomnie mâle des philosophes s'accroît de l'énervement dû au bruit de la ville, quand place Maubert, tard dans la nuit, les automobiles ronflent, que le roulement des camions me fait maudire ma destinée de citadin, je trouve un apaisement à vivre les métaphores de l'océan. On sait bien que la ville est une mer bruyante, on a dit bien des fois que Paris fait entendre au centre de la nuit le murmure incessant du flot et des marées.
Oui, il disait aussi que des fois il y avait un marteau-piqueur qui travaillait dans la rue et que ça le fatiguait, mais qu'il arrivait à domestiquer, enfin à apprivoiser cet agacement en disant, tiens, ça c'est mon pivert qui travaille. Et donc il y a cette grande puissance de la métaphorisation, hein, chez Bachelard, et qui explique aussi que c'est dans les moments noirs de son existence qu'il s'est tourné vers cette œuvre nocturne, finalement. L'œuvre nocturne, elle commence tout juste avant la Deuxième Guerre mondiale, mais elle se développe surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant des périodes dures, celles de l'occupation, où il n'a plus accès à la science, et où il se recroqueville, il fait retraite vers l'intimité. Et donc, il faut bien voir qu'à la fin de sa vie, il y a quand même une part de souffrance chez chez Bachelard. Et donc, il trouve dans la puissance de la métaphorisation, du rêve, enfin de la rêverie plus exactement, de la poésie, il trouve quelque chose qui allège le sentiment de douloureux de l'existence.
Mais nous livre-t-il une méthode, finalement, pour bien vivre ou peut-être pour bien habiter un espace et justement pour faire face à cette mélancolie des espaces qui manquent, des espaces étroits, des espaces finalement qu'on ne connaîtra plus peut-être de cette maison natale.
Oui, mais ça nous fait une fois de plus anticiper sur des thèmes que vous verrez du point de vue scientifique, c'est-à-dire il faut mêler alors l'espace avec le temps. Ce sont des espaces-temps qui sont concernés par cette façon d'apprivoiser la nostalgie et de restituer des moments de joie parce que voilà la méthode qu'il livre pour essayer d'être heureux, c'est celle qu'il appelle la rythme-analyse. Et donc, c'est une méthode d'alternance entre les moments d'éveil profond qui sont faits par l'étude, par l'esprit rationaliste en tension, l'effort, et d'autres moments qui sont précisément ceux de la rêverie, et d'une rêverie qui, parce qu'il y a eu suffisamment de travail, est une rêverie heureuse et qui retrouve des cours harmonieux de parmi les images. Et donc, ça permet de nous échapper par cette sorte de discipline de l'alternance entre le jour et la nuit. Ça permet d'échapper à la fois à ce qui serait l'ennui et le marasme, mariner dans son jus, comme on dit, qui serait quelque chose de marécageux. On n'est jamais dans le marécage avec Bachelard. On est toujours dans des espaces qui nous offrent des possibilités d'évasion.
Voilà. Alors même que ce sont des espaces, on va dire, limités, où
pas
on se blottit.
Là, on a beaucoup parlé de la maison, mais songez à la rivière. Hein, la rivière, c'est un espace où, justement, on largue les amarres, assez risque et péril. Hein. Le complexe d'Hoffmann insiste sur le fait que ça vient avec le sentiment, d'ailleurs, avec l'alcool, hein, pour tout dire, avec l'ivresse. Et donc, il y a c'est l'invitation, justement, à se laisser entraîner. Et des fois, ça nous entraîne à faire des bêtises, voire à des fins funestes. Mais il y a ce dynamisme dans l'espace. Il y a des analyses aussi sur le rêve de vol, hein, de quand on rêve et qu'on a ce sentiment de liberté et qu'on survole de vastes étendues. Donc les espaces ne sont pas tous confinés et même, j'insisterai, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais sur le fait que ce sont des espaces de protection, ce ne sont pas des espaces d'enfermement. Hein. C'est pas un espace carcéral qui est la maison. Hein. C'est un espace où, dit-il, les volets sont découpés en forme de cœur et projettent leur lumière en forme de cœur sur la campagne qui nous environne. Donc c'est un espace accueillant où on rentre, où on sort, où le vagabond de passage à sa place, donc c'est extrêmement généreux.
Pour bien connaître les émotions fines dans leur devenir, la première enquête consiste, d'après nous, à déterminer dans quelle mesure elles nous allègent ou dans quelle mesure elles nous alourdissent. C'est leur différentiel vertical positive ou négative qui désigne le mieux leur efficacité, leur destin psychique. Nous formulerons donc ce principe premier de l'imagination ascensionnelle. De toutes les métaphores de la hauteur, de l'élévation, de la profondeur, de l'abaissement, de la chute, sont par excellence des métaphores axiomatiques. Rien ne les explique et elles expliquent tout. Plus simplement, quand on veut bien les vivre, les sentir et surtout les comparer, on se rend compte qu'elles portent une marque essentielle et qu'elles sont plus naturelles que toutes les autres. Elles nous engagent plus que les métaphores visuelles, plus que n'importe quelle image éclatante. Et pourtant, le langage ne les favorise pas. Le langage, instruit par les formes, ne sait pas aisément rendre pittoresques les images dynamiques de la hauteur. Cependant, ces images sont d'une singulière puissance. Elle commande la dialectique de l'enthousiasme et de l'angoisse. La valorisation verticale est si essentielle, si sûre, sa suprématie est si indiscutable que l'esprit ne peut s'en détourner quand il l'a une fois reconnue dans son sens immédiat et direct. On ne peut se passer de l'axe vertical pour exprimer les valeurs morales. Quand nous aurons mieux compris l'importance d'une physique de la poésie et d'une physique de la morale, nous toucherons à cette conviction. Toute valorisation est verticalisation.
Vincent Bontemps, on vient d'entendre la voix de Vincent Schmitt qui lisait non pas un extrait de La poétique de l'espace, mais un extrait de L'air et les songes de 1943 de Gaston Bachelard. Vous avez parlé tout à l'heure de mouvement, d'ouverture. On a un très bon exemple ici avec la verticalisation et cette élévation, cette imagination ascensionnelle, comme le dit Bachelard.
L'air et les songes, c'est consacré à l'air, et l'air, c'est le plus immatériel des éléments, le plus dynamique aussi. Et donc, c'est celui qui va donner lieu pour la première fois à une tentative de description, assez savante d'ailleurs, des opérateurs poétiques du mouvement et de l'occupation de l'espace. Et vous voyez que dans ce passage, par exemple, il utilise un vocabulaire comme celui de différentiel ou d'axe.
On sent les traces scientifiques.
Voilà. Alors quand il dit qu'il n'y a aucune trace scientifique, ce qu'il fait, c'est qu'on est vraiment dans la phase 1 dont je vous disais, il essaye de casser, il faut respecter l'originalité de l'imaginaire. Et puis en réalité, quand on arrive au bout de l'analyse, on se rend compte que c'est quand même utile la culture scientifique parce que ça permet de créer ces petites analogies qui font comprendre des choses subtiles. Pourquoi il parle de différentiel ? Parce qu'il dit, en fait, quand vous rêvez et que vous êtes en train de voler, c'est pas tellement important là où vous vous trouvez, c'est si vous êtes en train de descendre ou de monter. Donc il dit, c'est pas votre position ni l'intégrale du chemin, c'est qu'à tout moment, le fait de descendre implique une chute et donc un sentiment qui va vers, par exemple, la culpabilité ou l'angoisse. Alors que le fait de monter, voilà, même si vous êtes au fond d'un gouffre et que vous êtes en train de remonter, c'est bon signe. Alors que si vous êtes très très haut mais que vous commencez à tomber, c'est mauvais signe, l'angoisse.
C'est là où il parle d'une physique de la morale.
Et du coup, c'est ça qu'il a dit, ce qui compte, c'est la différentielle, c'est voilà ce qui est en train de se jouer. Et on voit que certains concepts scientifiques, non pas pour arraisonner l'imaginaire ou le coincer, le limiter à des intuitions géométriques, mais au contraire pour essayer de révéler dedans un certain nombre de choses très intimes, très subtiles. Et là où il dit, justement, le langage ordinaire, lui, est très tributaire de nos perceptions éveillées, du sens commun. Donc c'est pour ça qu'on a besoin par moments des métaphores pour éclairer certains enjeux scientifiques et des mathématiques et des analogies mathématiques pour éclairer certains éléments d'imaginaire. C'est quand même très subtil. Et donc voilà, L'air et les songes est l'un des textes qui va le plus loin dans ce sens-là.
Mais là, Bachelard s'oppose à Bergson.
Ah oui.
C'est-à-dire que la spatialisation, rendre poétique l'espace et réhabiliter la spatialisation, c'est se positionner face à Bergson, pour qui la durée était opposée à tout ce qui était mesure, science, objectivité et effectivement spatialité.
Oui, Bergson est un peu le souffre-douleur, hein, faut bien dire, de Bachelard. Et donc vous avez parfaitement raison. Il y a cette valorisation de la spatialité. Il y a une spatialisation de l'imaginaire en général chez Bachelard. Et il y a même un geste un peu plus retors qui est que dans L'air et les songes, à un moment donné, il utilise les analyses de Bergson sur le mouvant pour parler du temps de la nuit. Parce que la nuit est l'une des formes, voilà, de l'imaginaire aérien. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il reprend les analyses de Bergson en disant, mais elles sont très justes pour parler de l'imaginaire. Il disait, la durée du mouvant, c'est vraiment le sentiment de la durée rêvée. Et cette continuité qu'il y voit. Et donc, c'est un geste retors parce que c'est rendre hommage à Bergson, mais en disant, là où Bergson pensait, justement, il croyait penser, c'est-à-dire donner des concepts qui donnaient un rapport au monde réel, en réalité, ce qu'il faisait, c'est qu'il rêvait. Voilà. Et donc, il nous donne une très belle description de ce que l'on sent quand on rêve. Donc, vous voyez, en déplaçant Bergson, en fait, en même temps, il lui donne le coup de pied de l'âne. Et en disant, Bergson, c'est très bien, mais d'un point de vue imaginaire. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire.
Dans ce texte qu'on vient d'entendre, cet extrait de L'air et les songes, il parle donc du mouvement ascensionnel, de l'imagination ascensionnelle. Est-ce que ce mouvement-là, est-ce qu'on peut vraiment volontairement l'initier ? C'est-à-dire que vous parlez du fait qu'on chute, que l'on remonte la pente, on peut descendre à la cave, on peut monter au grenier, on peut se blottir dans un coin. Mais finalement, est-ce qu'on peut vraiment initier ces mouvements-là ? Est-ce qu'on peut bien user de l'espace ? Est-ce qu'on peut se dire « je monte au grenier parce que j'ai décidé d'aller bien » ?
Eh bien, Bachelard s'est posé lui-même cette question. Il se l'est posé avec un psychanalyste qui s'appelait Desoil, qui est un psychanalyste français, qui utilisait les méthodes de suggestion et d'autosuggestion. Et donc, Desoil demandait aux gens de leur raconter leurs rêves, puis ensuite les mettait dans un état pré-hypnotique où ils étaient suggestibles, et essayait finalement de modifier le scénario ou d'orienter le cours des rêveries et des rêves des demi-éveillés de ces patients pour les soigner à travers cela. Donc si les gens étaient en train de décrire justement une expérience traumatique où ils étaient en train de descendre aux enfers, et il essayait de leur montrer qu'il y avait toujours un passage et qu'on pouvait regagner la surface. Et donc il y a eu une réflexion quasiment thérapeutique de Bachelard à ce sujet. Et savez-vous que vous aviez une part à dans cette histoire, parce que il dit dans un autre texte qui est dans Le droit de rêver que ce sont les gens qui s'occupent de la radio qui doivent être des ingénieurs de la rêverie, c'est-à-dire vous devez fournir suivant les moments, alors c'est plus le temps que l'espace, mais c'est quand même cette communication sur une vaste étendue que permet la radio, vous devez fournir des occasions de rêverie qui soient adaptées au moment de la journée et qui permettent aux gens en fait d'apprivoiser le rythme circadien et de leur faire du bien. Donc la radio a un rôle à jouer là-dedans.
C'est-à-dire que la radio avec le son, les voix,
la musicalité
qui le tempo, le rythme qui se diffuse habite l'espace.
Oui,
la journée ou comment dire.
Eh ben, elle doit en tout cas. Il était attentif. Bon, c'est des visions. On peut certainement raffiner ce qu'il dit, mais il disait il y a certaines heures, peut-être vers le soir ou la nuit, où la radio doit apporter un apaisement et un réconfort aux gens, tandis qu'il y a d'autres moments où elle doit être de tonus, de vivacité. Bon, je crois que c'est des choses qui sont tout parfaitement intégrées à vos métiers, hein.
Parfaitement intégrées de programme. À la grille de programme, exactement, à programmation.
L'immensité est, pourrait-on dire, une catégorie philosophique de la rêverie. Sans doute, la rêverie se nourrit de spectacles variés, mais par une sorte d'inclination native, elle contemple la grandeur. Et la contemplation de la grandeur détermine une attitude si spéciale, un état d'âme si particulier, que la rêverie met le rêveur en dehors du monde prochain, devant un monde qui porte le signe d'un infini. Par le simple souvenir, loin des immensités de la mer et de la plaine, nous pouvons, dans la méditation, renouveler en nous-mêmes les résonances de cette contemplation de la grandeur. Mais s'agit-il vraiment alors d'un souvenir ? L'imagination à elle seule ne peut-elle pas grandir sans limite les images de l'immensité ? L'imagination n'est-elle pas déjà active dès la première contemplation ? En fait, la rêverie est un état entièrement constitué dès l'instant initial. On ne la voit guère commencer et cependant elle commence toujours de la même manière. Elle fuit l'objet proche et tout de suite elle est loin, ailleurs, dans l'espace de l'ailleurs. L'immensité est en nous. Elle est attachée à une sorte d'expansion d'être que la vie réfrène, que la prudence arrête, mais qui reprend dans la solitude. Dès que nous sommes immobiles, nous sommes ailleurs. Nous rêvons dans un monde immense. L'immensité est le mouvement de l'homme immobile. L'immensité est un des caractères dynamiques de la rêverie tranquille.
L'immensité, c'est un des derniers chapitres de la poétique de l'espace de Gaston Bachelard que l'on vient d'entendre lu par Vincent Schmitt. Comment comprendre, Vincent Bontemps, ce paradoxe, cette idée paradoxale d'une immensité en nous ?
C'est l'un des passages les plus troublants sur la spatialité, un des plus originaux. Une des idées qui est présente ici, c'est que l'immensité précède, l'appréhension de l'immensité précède imaginairement ce qui est immense. On a d'abord une impression d'immensité avant que ce soit l'immensité de la plaine, ou l'immensité du ciel, ou l'immensité de la forêt, qui est l'une de mes descriptions préférées dans ce livre. Et ça, c'est quelque chose qui touche, je dirais, très juste en nous. cette idée qu'il y a d'abord le fait d'être plongé, projeté dans l'immensité. C'est d'autant plus paradoxal que ça peut se faire en étant tout à fait immobile. On peut être immobile et confronté à l'immensité. Cette immensité n'est pas celle de Pascal, c'est pas les espaces infinis qui m'obsèdent. C'est au contraire une immensité que on habite par un dynamisme. Tout d'un coup, on est immobile, mais on se projette dans l'immensité. Ça vient d'une dialectique aussi. Hein. Le chapitre précédent était justement sur les miniatures. Et vous voyez une fois de plus que ça peut communiquer avec cette géométrie fractale dont je parlais auparavant, auquel je consacre un chapitre dans mon livre. Et il y a une façon donc de trouver dans le détail des choses immenses et d'être à la fois immobile comme un point et d'être une ouverture vers cette dimension d'approfondissement en nous. C'est-à-dire, à la fois, on est projeté vers l'immensité, mais on la trouve, comme vous l'avez dit, en nous, cette immensité. C'est l'immensité de l'intimité.
Et de la profondeur.
Oui, la profondeur, c'est un terme justement un peu trompeur. Hein, j'en traite dans mon texte parce que Bachelard distingue très bien entre la profondeur qui serait l'une des trois dimensions d'espace et puis cette dimension qu'on devrait appeler d'approfondissement. Donc une dimension en fait de zoom, hein, de rentrer dans le détail des choses. Et c'est en rentrant dans notre propre dans notre propre dimension fractale, on va dire, que l'on peut ensuite rayonner d'une façon particulièrement immense, voilà, dans un univers.
On a parlé, Vincent Montand, du chez-soi, mais on a peu parlé de où est notre chez-nous, où est le chez-soi, de la localisation, de la géographie. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut complètement oublier avec Bachelard? On peut rapprocher ces réflexions sur le fait d'habiter le monde de celle de Heidegger, et pourtant il n'y a pas d'idée d'enracinement chez lui, il n'a pas d'idée d'être là ou d'être au monde. Il critique d'ailleurs les philosophes qui parlent de l'être là. Il dit, est-ce qu'il faut s'arrêter sur l'être ou sur le là, et où est le là? Finalement, il faut oublier cette idée de cartographie du chez-soi.
Ah oui, alors c'est un enjeu essentiel. Il y a des choses qui semblent très résonantes avec certains thèmes de Heidegger, comme habiter ou les réflexions sur les présocratiques et sur les éléments chez les présocratiques qu'on trouve chez ce philosophe. Et puis il y a des choses qui sont mais vraiment radicalement opposées. Et comme vous l'avez très justement souligné, ce serait l'idée qu'il y ait un enracinement dans un espace, je veux dire, géographique réel. Bien sûr, Bachelard est amoureux de sa région, de la Champagne. Mais si vous lisez dans les textes sur la terre et les rêveries du repos, il y a un moment donné où il parle des vins de sa région et il dit ce sont des vins qui dessinent une géographie très particulière parce qu'ils sont au confluent de la Loire et de la Champagne, ce qui est impossible géographiquement, mais qui d'un point de vue du goût, hein, de la texture de ces vins, était très juste. Et donc, il faudra toujours penser avec Bachelard ce refus absolu du Blut und Bode, c'est-à-dire de cette bêtise de l'enracinement, alors qu'il y a quelque chose qui est de cultiver ses racines dans le rêve, ce qui est tout à fait autre chose. Et donc, à ça, j'ai déjà mentionné Kafka, hein, donc écrivain juif citadin, qui donne la maison de rêve à Bachelard. Et il y a un refus absolu de cet enracinement bête, au profit, au contraire, de quelque chose qui est un développement de la culture du rêve, du goût, du vin, du plaisir.
Voilà. Un refus d'être au monde aussi, ce terme-là, cette expression d'être au monde.
Elle est trop simple, tout simplement. Être au monde, c'est avant d'être au monde, comme il dit, avant d'habiter l'univers comme le voudrait Heidegger, on commence par habiter une maison. On revient à des thèmes qui sont concrets, qui sont anthropologiquement forts. On revient vers l'amour de la cheminée, avec le feu dans la cheminée, le père qui vient allumer des souvenirs d'enfance. Donc avec Bachelard, on va refuser aussi, on va refuser la bêtise et on va refuser aussi ces abstractions cosmogoniques ou l'infini de Malebranche. Vous avez vu, il l'a refusé. Oui. Mais dans l'immensité, il nous a bien dit qu'on était en train de vivre quelque chose d'infini. Donc il a rien contre l'infini en soi. Il a quelque chose contre ces abstractions qui sont des absolus dogmatiques.
Et qui mondifient. Il parle de mondifier avec ironie.
Oui. Bah, il s'amuse beaucoup avec la langue de l'existentialisme de cette époque. Faut bien dire, hein, les mots avec plein de tirets, des choses comme ça, ça le faisait beaucoup rire. Et il a préféré un travail sur la langue où, bien que ce soit un grand créateur de formules, de néologismes, tout ce que nous savons, hein, de métaphores, d'analogies, eh bien, plus il est avancé dans son œuvre, plus il a voulu aller vers un dépouillement de la langue qu'on verra dans La Flamme d'une Chandelle, par exemple, où il reste quasiment rien de jargon philosophique et où pourtant les intuitions sont tout aussi profondes.
Il parle aussi dans la poétique de l'espace de vivre, il dit on se surprend à vivre dans les mots, à l'intérieur d'un mot, des mouvements intimes comme une amitié, le mot se gonfle parfois au gré du rêveur dans la boucle d'une syllabe.
Ah oui, il y a toute une réflexion sur la façon de prononcer les mots et ce que ça, cette sensibilité. Et là encore, vous voyez une dialectique, c'est-à-dire qu'on doit se méfier du langage quand il pense à notre place, mais on peut se confier au langage à partir du moment où on est conscient qu'on est en train d'en explorer les beautés sensuelles pour justement donner une texture et une saveur à notre imaginaire.
Alors je vous propose, Vincent Bontemps, de se quitter avec la voix de Gaston Bachelard, si reconnaissable, si particulière.
Parlez-nous de la Champagne, monsieur Bachelard.
Que je vous parle de la Champagne, je deviendrai trop mélancolique. C'est l'un des plus beaux pays du monde, n'est-ce pas? Seulement, j'habitais la Champagne, une Champagne bien équilibrée, qui n'est pas la Champagne des riches marchands de Champagne. J'habitais Bar-sur-Aube, c'est une petite ville au bord de la plus belle des rivières, avec des collines autour. Et alors, il y avait des vignes ce temps-là sur les collines. Il y avait l'esprit du vin qui était très particulier, très gai. Mon père avait des vignes, allait en Vendange, n'est-ce pas? Vous voyez? Et j'ai passé toute ma jeunesse pendant les 18 premières années de ma vie, et je vous disais dans une conversation, j'y suis retourné pendant 11 ans comme professeur, et j'aurais peut-être bien fait d'y rester par certains côtés, plaisir dans cette avec mes concitoyens. Vincent Bontemps, pour se quitter, peut-être un mot sur cette archive de Bachelard qui parle de la Champagne.
Alors, Bachelard, ce qui me touche, c'est qu'à la fois, il parle de Bar-sur-Aube, hein, donc c'est son village, et il y a cette fidélité à son identité de campagnard. Et puis, en même temps, il n'est pas définitif, il ne regrette pas sa montée. Donc, il est allé à Dijon, il est allé à Paris, et c'est l'itinéraire d'un homme qui, finalement, on ne peut que s'en féliciter, ne serait-ce que parce qu'on a toutes ces archives où on entend encore sa voix. Donc, vous voyez, c'est pas un espace de...
De regret.
Non, c'est pas un espace de regret, c'est un espace de voyage et du trajet d'une existence.
Merci
beaucoup. Et c'est tourné vers l'avenir.
Merci beaucoup Vincent Bontemps. Je rappelle que de vous, on peut lire Bachelard, c'est aux belles lettres, et qu'on pourra lire de vous dès avril, paru aux presses des mines, Bachelard et l'avenir de la culture du surrationalisme à la raison créative.
C'est déjà en précommande sur le site des presses des mines.
Vous faites bien de le dire. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver comme tous les jours le journal de la philo, présenté cette semaine par Anastasia Colosimo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Anastasia.
Bonjour Géraldine.
Comme tous les jours, il est question dans ce journal de la philo d'actualité. Il paraît que c'est un film que vous nous conseillez d'aller voir aujourd'hui.
Alors oui, c'est un film. Si vous ne l'avez pas encore fait, courez voir le dernier Xavier Giannoli, qui s'appelle L'Apparition. Le film raconte l'histoire d'Anna, une jeune fille de 18 ans, qui affirme avoir vu une apparition de la Vierge Marie dans une petite ville des Alpes. Des milliers de pèlerins affluent pour rencontrer la jeune fille et se recueillir sur les lieux de l'apparition. Mais les autorités ecclésiastiques doutent. Le Vatican décide alors d'ouvrir une commission d'enquête canonique afin de vérifier les dires de la jeune Anna. Pour les besoins de l'enquête, le Saint-Siège recrute Jacques, grand reporter, revenu traumatisé d'un reportage de guerre où son meilleur ami photographe est mort. Au début très sceptique, Jacques se laisse peu à peu ébranler par le culte grandissant autour de la jeune Anna et par son attitude désarmante d'innocence.
Et alors pourquoi faut-il aller voir ce film ?
Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le film est construit comme un excellent polar, porté par un Vincent Lindon magistral et la jeune actrice Galatea Bellugi, qui est une véritable révélation, c'est le cas de le dire. Ensuite, parce qu'aussi fou que cela puisse paraître, il est d'actualité. En effet, 3 jours avant la sortie du film, le 11 février, l'évêque de Beauvais a reconnu comme miraculeuse la guérison de la sœur franciscaine Bernadette Morieux à Lourdes en 2008, après 10 ans d'enquête. C'est un véritable événement pour le monde catholique puisqu'il s'agit de la 70e guérison miraculeuse survenue à Lourdes et reconnue officiellement par l'Église. Or, c'est exactement dans cet univers que ce film nous plonge. Comme nous l'explique Bénédicte Luteau dans La Vie, dans la réalité, l'Église catholique doit régulièrement faire la lumière sur des cas d'apparition ou de guérison miraculeuse présumée. À l'issue de ces enquêtes, constituées de religieux et de laïcs, avec la présence de médecins et de psychiatres, très peu sont finalement reconnus officiellement. Pour ce qui est des guérisons à Lourdes, sur les 7200 déclarations enregistrées par le bureau médical de Lourdes, qui existe depuis 1883, seules 70 guérisons miraculeuses ont été reconnues, dont la dernière, le mois dernier, comme je vous le disais. En ce qui concerne les apparitions présumées de la Vierge Marie, parmi les milliers de témoignages de travers le monde, seules 18 ont été reconnues, la dernière datant de 1983 en Argentine. Elle n'a été reconnue qu'en 2016, après 33 ans d'enquête. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est sans doute les critères retenus.
Qu'est-ce que sont ces critères retenus, Anastasia ?
Eh bien, les critères qui servent à déterminer si l'apparition ou la guérison relève du miracle ou non. Depuis 2012, le Vatican les a rendus publics. Il y a des critères dits positifs, on évalue alors l'équilibre psychique, l'honnêteté, la moralité, mais aussi des critères négatifs, comme la recherche d'avantages matériels ou financiers, une éventuelle maladie psychique, ou encore la potentielle hystérie collective provoquée par l'événement. À la fin de cette enquête, qui dure généralement fort longtemps, l'Église détermine donc s'il y a eu miracle ou non. En mettant toute cette histoire d'enquête canonique au cœur de l'intrigue de son film, Xavier Giannoli pose en réalité une question fondamentale. Y a-t-il une place pour le mystère et pour le miracle dans nos sociétés sécularisées ? En réalité, la place accordée au mystère et au miracle n'est pas nouvelle. Xavier Giannoli le sait aussi. Elle remonte à un débat vieux de plusieurs siècles entre foi et raison. Car si la foi, c'est l'évidence qui s'impose et qui n'est pas rationnellement démontrable, la raison, elle, recouvre justement l'idée qu'il n'y a d'évidence que dans ce qui est rationnellement démontrable. Cette question de la compatibilité ou de l'incompatibilité entre foi et raison agite toute la théologie médiévale qui ne cesse de les unir et réunir. Le débat se poursuit dans la philosophie chez Spinoza, Pascal, Kant, Kierkegaard et bien d'autres encore. Ce débat n'épargne évidemment pas l'Église qui, à travers ses enquêtes, joue la réconciliation en traquant avec raison les impostures pour déterminer là où, justement, la raison se suspend pour laisser place au miracle. Dans le film, un jeune prêtre confesse « L'Église préférera toujours passer à côté d'un véritable miracle plutôt que de reconnaître une imposture. » Et c'est à la psychiatre de la commission d'enquête qu'il faudrait laisser les mots de la fin. « La foi est un choix libre et éclairé. Avec une preuve, il n'y aurait plus de mystère. »
Merci beaucoup Anastasia. On vous retrouve demain et le journal de la philo est à réécouter sur le site de France Culture. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Adèle Vendrette, bien sûr, que vous retrouverez en fin de semaine, David Pargamin, Maude Markiewicz, Marianne Chassor, Claire Perriman-Holt, Isis Jourda, à qui je souhaite la bienvenue, Olivier Bétard à la réalisation, Vincent Schmitt à la lecture des textes et à la prise de son aujourd'hui, Alex Dang. Rendez-vous demain pour la suite de notre semaine à parcourir l'espace. Et demain, ce sera Claude Burgelin qui nous fera explorer les espèces d'espace de l'écrivain Georges Perec, des choses à la vie mode d'emploi. Mais d'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales. Puis bien sûr, rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter des chemins de la philosophie pour retrouver toutes nos émissions.